Bible de l'humanité, 1. L'Inde, chapitre 2. Comme on retrouva l'Inde antique. C'est la gloire du dernier siècle d'avoir retrouvé la moralité de l'Asie, la sainteté de l'Orient, si longtemps niée, obscurcie. Pendant 2000 ans, l'Europe blasphéma sa vieille mère et la moitié du genre humain maudite et conspua l'autre. Pour ramener à la lumière ce monde enterré si longtemps sous l'erreur et la calomnie, il fallait non pas demander avis à ses ennemis, mais le consulter lui-même, s'y replacer, étudier ses livres et ses lois. À ce moment remarquable, la critique, pour la première fois, se hasardait à douter que toute la sagesse de l'homme appartint à la seule Europe. Elle en réclamait une part pour la féconde et vénérable Asie. Ce doute, c'était de la foi dans la grande parenté humaine, dans l'unité de l'âme et de la raison, identique sous le déguisement divers des mœurs et des temps. On discutait, un jeune homme entreprit de vérifier. Anquetil du Perron, c'est son nom, n'avait que 20 ans. Il étudiait à la bibliothèque les langues orientales. Il était pauvre et n'avait aucun moyen de faire le long et coûteux voyage où de riches Anglais avaient échoué. Il se promit à lui-même qu'il irait, qu'il réussirait, qu'il rapporterait et mettrait en lumière les livres primitifs de la Perse et de l'Inde. Il le jura et il le fit. Un ministre auquel on le recommande goûte son projet, promet, ajourne. Anquetil ne se fit qu'à lui-même. On faisait des recrues pour la Compagnie des Indes. Il s'engage comme soldat. Le 7 novembre 1754, le jeune homme partit de Paris derrière un mauvais tambour et un vieux sergent invalide avec une demi-douzaine de recrues. Il faut lire au premier volume de son livre l'étrange Iliade de tout ce qu'il endura, affronta et surmonta. L'Inde d'alors, partagée entre 30 nations asiatiques et européennes, n'était nullement l'Inde facile que trouva plus tard Jacquemont sous l'administration anglaise. À chaque pas était un obstacle. Il était encore à 400 lieues de la ville où il espérait trouver les livres et les interprètes quand tous les moyens d'avancer cessèrent. On lui dit que tout le pays était de grandes forêts, de tigres et d'éléphants sauvages. Il continue. Parfois, ses guides, ses frères le laissent là. Il continue. Il en est récompensé. Les tigres s'éloignent, les éléphants le respectent et le regardent passer. Il passe, il franchit les forêts, il arrive, ce vainqueur des monstres. Mais si les tigres s'abstinrent, les maladies du climat ne s'abstinrent pas de l'attaquer. Encore moins les femmes, conjurées contre un héros de 20 ans qui avait son âme héroïque sur une figure charmante. Les créoles européennes, les bayadères, les sultanes, toute cette luxurieuse Asie s'efforce de détourner son élan vers la lumière. Elles font signe de leur terrasse, l'invitent. Il ferme les yeux. Sa bayadère, sa sultane, c'est le vieux livre indéchiffrable. Pour l'entendre, il lui faut gagner, séduire les parses qui veulent le tromper. 10 ans durant, il les poursuit, il les serre, il leur extorque ce qu'ils savent. Ils savent très mal, et c'est lui qui les éclaire. Il finit par les enseigner. Le Zendavesta persan est traduit avec un extrait des Védas indiens. On sait avec quelle gloire ce mouvement fut continué. Les savants approfondirent ce que le héros avait entrevu. Tout l'Orient est révélé. Tandis que Volney, Sassi, ouvre la Syrie, l'Arabie, Champollion s'attaque au Sphinx, à la mystérieuse Égypte, l'explique par ses inscriptions, montre un empire civilisé 60 siècles avant Jésus-Christ. Eugène Burnouf établit la parenté des deux ancêtres de l'Asie, des deux branches des Arias, l'Indo-Perse de la Bactriane. Les Parses, au fond de l'Indostan, disciples du Collège de France, contre l'anglican disputeur, citèrent le mage d'Occident. Alors, du fond de la terre, on vit remonter au jour un colosse 500 fois plus haut que les pyramides, monument aussi vivant qu'elles sont mortes et muettes, la gigantesque fleur de l'Inde, le divin Ramayana. Suivirent le Mahabharata, l'encyclopédie poétique des Brahmes, les traductions épurées des livres de Zoroastre, la superbe histoire héroïque de la Perse, le chat Namai. On savait que derrière la Perse, derrière l'Inde brahmanique, un monument n'existait de très lointaine antiquité, du premier âge pastoral qui précède les temps agricoles. Ce livre, le Rig Veda, un recueil d'hymnes et de prières, permet de suivre ces pasteurs dans leurs élans religieux, dans le premier essor de la pensée humaine vers le ciel et la lumière. Rosin, en 1833, en publia un spécimen. Désormais, on peut le lire en sanskrit, en allemand, en anglais et en français. Cette année 1863, un fort et profond critique, et c'est encore un burnouf, en a expliqué le vrai sens, montré l'immense portée. Un grand résultat moral nous est venu de tout ceci. On a vu le parfait accord de l'Asie avec l'Europe, celui des temps reculés avec notre âge moderne. On a vu que l'homme, en tout temps, pensa, sentit, aima de même. Donc une seule humanité, un seul cœur, et non pas deux. La grande harmonie à travers l'espace et le temps est rétablie pour toujours. Silence à la sotte ironie des sceptiques, des docteurs du doute, qui disaient que la vérité varie selon la latitude. La voix grêle de la sophistique expire dans l'immense concert de la fraternité humaine.